France Inter.
Bonjour Flavien Berger.
Bonjour.
On écoutait Sapon, une chanson de votre dernier disque, Contrebande 02, le disque de l'été. On dit bien Contrebande 02 ?
Oui, j'aime bien. La question m'est posée à chaque fois, si on dit le 0 de 02 ou pas. Le 0 de 02, c'est drôle parce que ça appelle la dizaine à venir, la dizaine potentielle. Donc ça m'amuse toujours.
Dans une vingtaine d'années peut-être ?
On verra, Ça va peut-être aller plus vite que prévu.
Elle entre comment la musique dans la vie de Flavien Berger ?
Elle entre par... c'est moi qui entre dans la musique par refuge. La pratique de la musique arrive comme refuge. Après, l'écoute de la musique, ça c'est quelque chose qui m'a été donné par mes parents et mes frères et sœurs. Moi, je suis le dernier de 5 enfants, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de matière à consulter.
Qu'il y avait dans la famille comme musique ?
Jazz, beaucoup. Du hip-hop de mon frère, du jazz de ma sœur et de mon père. Et après les musiques quoi de ma génération. Donc moi j'ai écouté du rap et de la dance quand j'étais enfant.
Et est-ce que tout ça vous le réutilisez dans votre musique ?
Mais je crois que même si je voulais pas le réutiliser, je le réutilise quoi qu'il arrive. Alors aujourd'hui je sais que je fais pas de jazz parce que je ne saurais même pas faire du jazz, mais je pense que quelque part on est éponge de tout ce qu'on écoute, même les choses qu'on écoute de manière accidentelle, j'ai envie de dire. Et que, en fait, c'est un peu ça le travail de la musique aussi, c'est débroussailler toutes les influences. J'ai réalisé, il n'y a pas longtemps, que quand je pense à de la musique, c'est qu'elle je l'entends. Donc elle me vient dans les oreilles. Je crois que j'arrêterai la musique le jour où j'entendrai plus de mélodie ou d'harmonie par-dessus les choses que je compose.
Donc dans la tête de Flavien Berger, c'est d'abord de la musique qui vient.
Ah oui. Oui, parce qu'il y a les paroles. De manière corollaire, c'est toujours un peu l'un à côté de l'autre. Mais j'aimerais bien arriver à un moment de ma pratique où les mots viennent avec les notes. Ça, c'est une espèce de graal, un peu, que j'imagine dans une démarche un peu plus de songwriting, presque folk. Mais pour ça, je crois qu'il faut jouer d'un instrument pour que ce soit plus direct. Or, moi, je ne joue pas vraiment d'un instrument. Je
vous
me sers d'un piano.
Machines, vous.
Mais je peux même me servir d'un clavier de piano, mais je n'en joue pas, je m'en sers. Je place mes doigts là où j'ai envie que ça sonne, mais je ne serai pas composé. Je ne saurais pas décrire les mélodies que j'ai en tête automatiquement avec un instrument.
Vous travaillez avec des claviers, des synthés, des machines. Vous auriez pu continuer à faire de la musique instrumentale. Vous auriez pu être DJ, c'est un métier. Et puis un jour, vous êtes devenu chanteur. Ça vous est tombé dessus ?
C'est vrai que la voix, elle est arrivée petit à petit dans mon travail de musique. Au début, je me servais de la voix comme d'un instrument, parce que j'en reviens à ce truc où je ne sais pas forcément interpréter les mélodies que j'ai dans la tête. Je sais le faire avec une seule chose, c'est ma voix. Donc je peux chanter les mélodies que j'entends, trouver les notes justes tout de suite en contre-mélodie, en harmonie, tout ça. Donc ma voix a d'abord été un instrument, et puis à un moment, il y a eu des phonèmes qui sont arrivés un petit peu comme une espèce de larve de yaourt anglisant, bizarre, toujours un petit peu noyé dans des réverbes. Puis ces espèces de phonèmes sont devenus un peu des paroles, toujours un peu anglaises, un peu de loin, citant un petit peu des musiques psychédéliques que je pouvais écouter à l'époque. Et puis un jour, en effet, je me suis mis à chanter en français. Et c'est arrivé très tardivement, en fait.
Vous aviez quel âge ?
La vingtaine. La vingtaine. Donc il y avait, en fait, moi j'ai beaucoup écouté de rap et de musique hip-hop adolescent, enfant, je le disais. Le fait est que je ne viens pas de cette culture-là, donc j'ai toujours eu un frein d'appropriation, de ne pas m'approprier une culture qui n'est pas la mienne. Donc j'ai jamais posé ma voix sur de la musique comme on pourrait entendre du rap. Mais le fait est qu'il y a quand même une manière d'écrire et de lier la musique aux paroles qui vient, je pense, des chansons que j'ai écoutées, mais qui vient quand même, d'une certaine manière, d'écriture du rap. Et donc, les jeux d'allitération, le travail sur les assonances et tout ça. Et donc, en fait, l'écriture était d'abord un jeu de syllabes, un jeu de mots, des jeux de rimes, et qu'après, j'ai pu mettre sur ma musique. Je dois avouer quand même que quand j'ai découvert Gainsbourg, ça a quand même mis un bon coup d'accélérateur au fait que ça m'ait désinhibé un petit peu.
La voix ?
La voix et le ton, la manière de se positionner en tant que chanteur.
C'est-à-dire à la fois un peu diseur, un peu chanteur, un peu conteur.
Et mais dans la manière d'écrire aussi, qui est que c'est jamais vraiment à la première personne, c'est jamais vraiment au-dessus de tout, c'est toujours dans une espèce d'atmosphère de cadre. C'est une manière de cadrer des choses et de les raconter, de mettre l'accent sur un détail et de faire ce détail une espèce de panorama, quoi.
On va écouter vos racines, on verra si vous avez choisi Gainsbourg ou pas d'ailleurs. On va continuer de parler de vous, de votre façon de travailler, dans votre atelier. Moi j'aime bien cette notion d'atelier et de fabrique chez un artiste pour comprendre un peu d'où vous venez et comment vous fonctionnez. Et on va aussi écouter vos goûts musicaux à partir des chansons qu'on soutient à France Inter. Par exemple une chanson d'Éloi.
La chanson que j'ai choisie, je l'aime beaucoup.
Parce Call
que...
Me.
Ouais, j'aime bien le texte en fait, c'est une chanson puissante qui raconte l'attirance d'un point de vue qu'on n'entend pas forcément. Et en plus, je travaille sur un remix en ce moment, alors ça me faisait plaisir d'écouter la version originale.
Just La balade, Vincent Josse, sur France Inter.
Je vais encore parler de l'âge, pardon, mais vous êtes dans la trentaine, vous, Flavien Berger, et Éloi, plutôt dans la vingtaine, donc elle a un petit peu plus de 10 ans de moins que vous, et vous dites que c'est une jeune génération très intéressante. Pour quelle raison ?
Par exemple, je pense qu'elle arrive à être beaucoup plus très, très tôt autonome, consciente des rouages de l'industrie musicale. Et je sais qu'à son âge, je n'avais pas autant de connaissances et de perspectives et de maturité en fait, par rapport à comment gérer mon projet. Je suis très content de comment les choses se sont faites avec mon label Pan-European Recording. J'adore mes managers avec qui je travaille depuis le premier jour. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, j'adore la croiser dans des festivals et tout ça.
C'est drôle de se dire qu'elle vous écoutait quand elle était petite.
C'est ce qu'elle m'a dit l'autre jour, qu'elle écoutait mon premier EP, donc elle ne devait pas être grande.
Ça vous vieillit, monsieur Berger.
Oui. J'accepte, j'adore.
Vous êtes arrivé, vous avez dit, ah bon, ça commence là, d'accord. Et vous avez ouvert, en prenant dans votre sac, un carnet. Oui. Là, je vois deux pages blanches, mais il doit être un petit peu rempli, parce qu'il y a pas mal de
ça
pages.
Ça y est, on est à la moitié, là.
Alors, je suis très indiscret, mais c'est un petit peu mon métier. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet ? Je vois des dessins,
oui.
Et puis des mots.
On parlait des textes corollaires à la musique tout à l'heure. Ma manière d'écrire, elle est par bribes, c'est-à-dire que je vais noter des idées, des choses issues de conversations, de pensées, même parfois des samples de mots, un mot que je trouve sorti de son contexte très intéressant. Et donc je vais les noter, et puis après quand il va falloir commencer à écrire des paroles qui sont souvent sur des mélodies déjà existantes, comme du coloriage un petit peu, je vais aller récupérer certains de ces mots, certaines de ces phrases, certains de ces textes, et je vais voir comment les agencer ensemble, comme un peu du cut-up en fait, comme si j'étais un auteur pour un autre artiste, comme si je récupérais des textes de différentes personnes et que j'en faisais des collages, et qu'après je me les donnais à moi-même quoi. J'ai l'impression qu'il y a des moments où je suis différentes personnes dans le process.
C'est intéressant ça. Vous êtes combien ?
Au moins 3. Mais non, dans la composition, après, on est plusieurs aussi. Parce que dans la composition, souvent, ma manière de travailler est que il va y avoir des choses qui vont jaillir comme ça, des espèces de trucs simples, hein, des mélodies, des accords, des groupements de phases musicales. Et puis après, je vais les oublier et puis je vais les récupérer avec quelques mois plus tard, parfois quelques années plus tard. Et je vais m'en servir comme des samples aussi. Comme si j'avais entendu un disque et qu'il y avait un passage qui m'intéressait. C'est pas tout le temps comme ça, mais j'aime bien cette pratique d'être de sampler un mois plus jeune.
J'ai lu cette définition de vous, je la trouve marrante. Artiste hybride, mêlant électro et psychédélisme. Est-ce que ça ressemble à Flavien Berger ou est-ce que ce sont juste des mots et des cases ?
Non, moi ça me va. C'est vrai que c'est plus ou moins heureux l'exercice du genre. Surtout en France, je trouve que moi j'aimerais bien qu'on ait encore plus de sous-genres dans la musique, un petit peu comme... comme si on collectionnait des cartes Magic ou des trucs comme ça. Moi, j'ai pas de mal à mettre 4 noms de genre pour parler d'un ou d'une artiste. Ça m'amuse même.
Qu'est-ce que vous emploieriez pour Flavien Berger ?
Je sais pas. Parce que je suis la pire personne en fait pour définir ma musique et ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que dans la définition que vous avez donnée, il y a psychédélisme et c'est quelque chose qui me rapproche en fait du début aussi de quand j'ai commencé à sortir de la musique. J'en parlais tout à l'heure, le label Pan-European Recording, avec qui je vais fêter mes 10 ans, là. Sortait de la musique qui ne ressemble pas vraiment à celle qu'on sort maintenant. Et quand j'ai intégré le label, c'était plutôt des musiques rock, psyché, drone, très lent, et toujours avec une idée de psychédélisme, c'est-à-dire l'idée que la musique puisse accompagner un état transitoire vers un changement, une modification de la pensée, quoi. Une modification de la perception du monde. Et donc, il y a cette idée un peu onirique du rêve dans le psychédélisme qui moi, m'attire beaucoup parce que, en effet, si la musique peut aider à accompagner le réel et en fait ouvrir une espèce de porte vers autre chose que le réel, pour moi, c'est gagné.
On va écouter les racines de Flavien Berger, en tout cas francophone. Vous avez choisi quelque chose qu'on chantait quand on était né dans les années 80, mais qu'on connaît presque par cœur. Ça va vous faire le même effet, auditeur, auditrice, qui étiez là déjà dans les années 80. C'est Muriel Dac. Pourquoi Muriel Dac, la Belge Muriel Dac, qui a eu un tube en France ?
Quand vous m'avez demandé de venir avec ma collection de morceaux un petit peu de mon panthéon quoi, ça m'a vraiment fait paniquer parce que je sais pas quand on me demande de donner de la musique tout à coup ces pages blanches je sais pas à quoi penser, je panique. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir mon historique YouTube de trucs que j'ai mis de côté, quoi, des playlists enregistrées. Je suis retombé sur ce morceau qui, en fait, pour moi, est hyper important parce que...
Le morceau, c'est Tropique.
Tropique de Muriel Dac. Et c'est une musique pop, quoi. C'est vraiment de la pop, c'est-à-dire que ça parle de choses légères, dans une instrumentation légère. Ça sample même de la musique pop, parce qu'au sein du morceau, il y a des espèces de citations de morceaux italiens de disco. Et en fait, j'ai l'impression que, quelque part, la musique que j'ai fait ces dernières années, c'est un peu dans cette case-là. C'est-à-dire quelque chose qui, d'aspect, semble léger, dansant,
qui va bien avec l'été,
qui va bien avec quelque chose d'estival, musique qui peut-être qui réchauffe. Et en fait, peut-être que derrière les masques, il y a un truc un peu plus grinçant ou un peu plus souriant toujours, mais avec un sourire différent. Je sais pas comment exprimer.
Un fond de mélancolie.
Peut-être.
On écoute Muriel Dac.
Avec plaisir.
Tropique sur France Inter.
Tropique au compteur, ouais. Change pas le moteur. Tropique dans ton cœur. Change pas le moteur, ouais. Il y a un truc qui parle de faim quand même dans ces morceaux-là. C'est tellement joyeux que ça peut pas durer constamment cet état-là. Donc il y a un peu une mascarade, dans le sens un peu carnaval, quoi. Ça gigote de partout et on se demande, et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière le décor, quoi.
Il y a aussi Élie et Jacquenot dans les racines musicales de Flavien Berger. Début des années 80, là aussi, Élie Medeiros, qui écrit les paroles dans le duo, qui chante, et puis Denis Quillard, surnommé Jacquenot, qui compose au synthétiseur. C'est un peu une démarche que, des années après, vous suivrez vous aussi.
Ouais, il y a un truc...
Il y a une filiation.
Oui, alors oui, les chansons accompagnent le synthétiseur. Pareil, dans des formes pop, couplets, refrains, qui parlent de choses légères, en tout cas en apparence. Élie Jacquenot, hyper important parce que il y a une radicalité dans la manière d'écrire et de produire qui fait que ça reste toujours sur un fil et ça ressemble à rien d'autre. Et c'est pas possible de faire pareil aussi. J'ai l'impression que c'est un genre en soi, le Élie Jacquenot. On parlait de genre tout à l'heure. Puis Jacquenot seul aussi, en tant que producteur, c'est vrai que moi, ça m'a ce côté un peu électro de HLM, quoi. Ça m'a beaucoup inspiré. Je trouve que c'est encore de la musique d'aujourd'hui. On parle des années 80, mais pour moi, c'est encore la musique de notre époque, quoi. Mmh. Parfois, ça marche de classer les musiques par décennie, et parfois, j'ai l'impression qu'elles sont plus sur des bottes de 7 lieux, d'autres temporalités. Et Élie et Jacquenot, pour moi, c'est la musique de France d'aujourd'hui, quoi.
Vous avez choisi une chanson qui va faire plaisir aux amoureux de Romer, Les Nuits de la Pleine Lune.
Thank you.
très mignon parce que Flavien Berger vient de me dire avec un regard d'enfant, je suis content de l'avoir écouté cette chanson.
Ouais, entière, au casque, bien concentré. J'ai tendance à aimer des chansons sans vraiment savoir de quoi elles parlent. J'écoute pas vraiment les paroles.
Ouais, c'est la musique qui vient d'abord chez vous.
Oui, ou si j'entends certaines des paroles, mais là j'ai pas l'image globale. Là. Je crois que je viens de comprendre un truc aussi sur cette chanson que j'avais pas compris. Et puis il y a un autre truc aussi que j'aime bien, c'est moi je joue pas mal au jeu de ouvrez les guillemets, nom de groupe, fermez les guillemets. Par exemple, on va dire un mot marrant et je vais dire ah c'est un bon nom de groupe ça. Et j'ai l'impression qu'il y a des chansons où toutes les paroles, c'est potentiellement des super noms de groupe. Et là, ça en fait partie.
Et là, vous avez noté quelque chose ?
Fleurs violentes, ouais.
Ouais, fleurs violentes. C'était dans les derniers mots, ça.
Ouais.
Et vous aussi, vous parlez de fleurs quelquefois dans vos chansons. Je pense à Sapon, on l'écoutait tout à l'heure en oui. commençant l'émission. Quel récit d'un retour nocturne à vélo, apparemment fou de joie. Mise à jour du ciel, c'est le crépuscule. Je suis plus si seul, les fleurs s'allument.
Mais il y a ce truc entre chien et loup où il y a des colorimétrie qui ressortent dans les blancs, dans les jaunes, parfois dans les bleus, et que tout à coup, des fleurs qui étaient un peu plus noyées dans des couleurs plus saturées, tout à coup ressortent parce que la luminosité baisse et des couleurs disparaissent. Et c'est comme si elles s'allumaient un peu comme dans un peu à la Lewis Carroll, quoi. Le voyage tout à coup devient un peu fantastique et c'est les fleurs deviennent des espèces de lanternes quoi, qui s'allument, qui éclairent aussi le chemin.
Mais vous avez ce talent-là, je crois, entre autres, de savoir restituer des atmosphères dans vos chansons, de savoir exprimer des sensations. Il y a le son de la rivière, par exemple, dans le dernier disque de Flavien Berger. On sent que vous vous baladez avec un micro et un magnétophone, que vous êtes sensible au son du monde, comme un reporter en radio.
Oui. Alors il y a cette idée d'archiver les choses qui m'entourent, c'est longtemps passé par la caméra, où je filmais beaucoup de choses, pensant peut-être emprunter une carrière qui était une autre, je voulais être réalisateur, donc je me suis dit commencer par filmer ma vie c'est pas mal, et puis ça n'avait pas la même impact dans ma vie créative que la musique, et du coup c'est la musique qui a pris plus de place.
Contrairement à vos frères et sœurs, il y a beaucoup, comme vos parents, d'enfants bergers dans le cinéma.
En tout cas, il y a une certaine religion autour du cinéma. C'est un rendez-vous commun, ouais.
Donc vous êtes totalement rebelle, vous ?
Non, pas du tout. Je préfère aller au Cinoche qu'aller voir des concerts, en vrai. J'adore le cinéma, j'adore en parler, j'adore le regarder, mais...
Mais pour ce qui est de la pratique, c'est la musique.
C'est ça. Et concernant les sons enregistrés, je pense qu'il y a... Il y a un enthousiasme face au son du monde que j'ai et que j'ai envie de célébrer et par ça, l'enregistrer pour mieux le rediffuser.
Oui, mais ce sont les petites choses du quotidien que vous enregistrez.
Hier, j'entendais sur une cassette audio que j'ai ressortie, des sons, c'était une canette qui roulait indéfiniment dans un escalator. Voilà. Donc ça fait des espèces de... qui se mélangent au rythme régulier de l'escalator et ça fait des espèces de tambours un peu presque... On parlait de fanfare tout à l'heure, en tout cas une espèce de char, hein, un char musical quoi, qui avance.
Ça, vous pouvez le rentrer dans vos machines et puis le ressortir pour une chanson.
Ouais, ou parfois, ça suffit juste de le mettre comme ça. Parfois, c'est beau tout seul.
Il y a une chanteuse qui s'appelle Shai, S-H-A-Y, et qui chante 17. Pourquoi l'avez-vous choisi, Flavien Berger ?
Déjà parce qu'il y a plein de morceaux que j'aime bien de Shai. J'aime bien Ishli Bedish de Shai. Et puis aussi, je voulais continuer un petit peu avec Bruxelles et avec la Belgique.
Mais son père est belge d'origine polonaise et sa mère d'origine congolaise.
Oui.
Il y a plein d'influences dans sa musique, ça se sent ?
Oui, et puis c'est intéressant la manière dont elle a une manière de proposer de la musique qui n'est pas vraiment à la française, quoi, qui est plus à l'américaine, où c'est très incarné, il y a un personnage comme ça, voilà.
Et vous êtes un Parisien, je le précise, qui vit à Bruxelles depuis pas mal d'années.
Ouais, depuis 10 ans.
Parce qu'il a des potes avec qui il peut travailler aussi là-bas.
Ouais, parce que ça s'est fait comme ça, c'était pas prévu, et puis la vie fait que maintenant je vis plus là où j'ai grandi.
Shai, 17.
Disparaître, et me fatigue ce putain de game. La quiche t'a écolo.
On est en train de se demander avec Flavien Berger ce que c'était que le 17, on cherche.
Bah c'est la police, c'est la police.
C'est la police.
Et, mais elle dit pimpon pimpon à la fin du coup.
Donc on pensait que c'était
les pompiers.
Mais non, c'est le 18. Non.
Elle fait un peu le 911 à la française. Quoi.
Vous avez des chiffres vous dans vos titres de chansons?
Oui, alors oui, oui j'ai des chiffres. J'ai des morceaux avec que des numéros de chiffres. J'ai sur mon premier album sorti un morceau qui s'appelle 8x8. Et après j'ai commencé à faire une espèce de course effrénée de morceaux de, qui se succèdent ou se précèdent. Donc un morceau qui s'appelle 7x7, 9x9. 6x6, et donc il me reste encore pas mal de numéros à faire avant d'être épuisé.
Vous vous amusez un peu comme en leur temps les dadaïstes ou les surréalistes avec la possibilité qu'offre le langage et les mots.
Mais en fait, il y a quelque chose qui m'intéresse dans le fait d'avoir une pratique musicale étalée sur des années, c'est qu'on ne fait jamais la même musique. Selon ce qu'on traverse, selon ce qu'on apprend aussi. Moi, j'apprends la fabrication de la musique en sortant des disques. Je pense que, au fond, c'est un petit peu ça ce que ça raconte en sous-texte, mes chansons, ou en tout cas mes albums. Et le fait de prévoir de faire des morceaux dans plusieurs années, ça m'amuse beaucoup. Je vous parlais du 0-2 qui appelle à la dizaine. C'est un petit peu comme si je lançais des pierres hyper loin et qu'à un moment je continuais d'avancer et je retrouvais la pierre et je me disais ah oui c'est vrai que j'avais lancé ce truc-là, bon il faut que je le fasse quoi.
Ce serait bien de se promener dans vos disques, le premier c'était en 2015, il s'intitulait Léviathan, il s'intitule toujours Léviathan, ouais. Il a eu un gros succès public et critique et puis après vous n'avez pas arrêté d'enchaîner les disques, on sent votre gourmandise et puis aussi... tout ce que vous avez envie de dire, tout ce qui est en vous, c'est un mix réalisé par Anne Van Pelt.
Sur les rails dans le noir, toi serré contre moi, c'était, je le croyais, le début d'une histoire, séparé par l'ondé, rendez-vous vendredi, dès lors la nuit a mis. Plusieurs jours à tomber, je bois l'alcool de palme dans une alcôve de marbre et je distille mes larmes pour oublier tes charmes. J'ai bu trop de Père Serge pour oublier tes perles. J'ai succombé au piège des neiges éternelles. sais pas. Accélérant ma mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Tu changes et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça. Tu te rapproches, tu me fais peur. Là, je ne suis que spectateur. Mais j'imagine que viendra l'heure de t'abandonner mon cœur. Quelle vie m'attend juste après toi? Je cherche, mais je ne sais pas. Je saurai un jour et d'ici là. Je ne donne pas ma langue au chat.
Un exemple de ce que produit depuis 10 ans notre artiste hybride mêlant électro et psychédélisme. J'aime beaucoup Flavien Berger. Vous écoutiez très attentivement. D'ailleurs, qu'est-ce que vous écoutiez ?
Comme je suis en tournée en ce moment, je chante certains des morceaux qu'on a écoutés et je ne les chante plus du tout pareil parce que je ne les ai pas réécoutés. Et du coup, il y a des moments où je me demande en live, ah mais comment je suis censé chanter ça ? Et puis je vais jamais vérifier le live fini parce qu'on pense à autre chose. Et que j'aime bien aussi le fait que les interprétations changent en direct, qu'un concert ne soit pas juste la redistribution d'un disque, mais qu'il soit traversé de plein de choses qui appartiennent au moment. Et du coup, j'écoutais parce que c'est vrai que j'avais pas réécouté ces morceaux-là depuis longtemps et je me concentrais sur comment je posais ma voix, comment je chantais. Il y a des notes que je peux plus chanter.
Ouais, vous alliez très haut là, par
ouais,
moment.
La gravité, le deuxième morceau qu'on a écouté, il y a un moment où je dois faire un tour de passe-passe et baisser d'un octave sans qu'on s'en rende compte pour pouvoir atteindre la note, parce que en fait je pourrais l'avoir, mais ça me demande de m'échauffer beaucoup la voix, ce que je fais pas forcément.
On entendait des chansons extraites de différents disques. Par moment, il y avait des petits refrains à la Dao.
Eh bien, ouais, c'est quelqu'un. J'ai découvert sa musique très tard. J'en faisais déjà. C'est-à-dire que c'est un nom qui résonnait. Je savais qui était Étienne Dao, mais je m'étais jamais assis dans un fauteuil à écouter. C'est une cassette audio de Weekend à Rome que j'ai écoutée la première fois. Je me souviens très bien dans la cuisine d'un ami. Et c'était mortel. J'ai dit, putain, c'est ça Dao, c'est trop bien.
Et un jour, vous avez rencontré l'homme qui chantait dans la cassette.
Oui.
Il vous a demandé de chanter avec lui ?
Oui, il m'a demandé de faire un passage dans un morceau qui s'appelle « Après le Blitz ». Et c'est un morceau assez dark, militaire, où c'est un peu comme ça, il y a des costumes de militaires en cuir un peu. Et puis il s'agissait de faire une éclaircie à un moment. Et il voulait me faire un chœur à la Beach Boys un petit peu avec que ma voix. Ce que je me suis beaucoup amusé à faire. Et puis... c'est un peu la première fois qu'on est resté longtemps ensemble dans la même pièce. C'était dans un studio, moi devant un micro et lui à me regarder et à me dire « vas-y ». C'était assez impressionnant, mais je me suis dit à ce moment-là que c'était bien le métier que je voulais faire, ça allait. C'était pas horrible.
C'est important d'avoir des grands parrains comme ça.
Ouais, et puis il est très, il fait attention à nous, il met en avant beaucoup la nouvelle génération, sa nouvelle génération, celle dans laquelle aussi lui se retrouve. Et c'est toujours valorisant et puis ça donne du courage aussi parce que c'est même lui qui m'a sensibilisé à l'idée de pop en fait. Ce mot-là qui était un mot investi de plein de choses mais auquel j'avais pas forcément fait attention, il m'a dit mais tu sais nous on fait de la pop, c'est important, c'est un élément de la culture populaire et faut pas faire comme si on n'aimait pas ça. Donc là je me suis dit ah oui c'est vrai que je fais de la pop et c'est peut-être grâce à lui que je parle de cette trilogie du coup des 3 albums que j'ai fait ces dernières années que j'appelle trilogie pop parce que c'est ça, c'est aussi pour ça que je vous ai passé Muriel Dac en fait, c'est peut-être qu'il y a des choses intellectuelles derrière des compositions simples mais la forme primordiale qu'on choisit c'est important et voilà c'est une des histoires de la musique quoi.
Pomme, qu'est-ce qu'elle chante? Elle fait pas vraiment de la pop.
Pomme, elle fait de la folk plus
avec sa harpe.
Ouais, avec son auto-harpe, ouais.
Son auto-harpe, ouais.
disons que justement c'est drôle parce que on s'est rencontrés en 2020 et je pense qu'on lorgnait un petit peu une pratique que l'autre avait, c'est-à-dire que moi justement je vous parlais tout à l'heure du fantasme que j'ai de pouvoir peut-être composer chanter des paroles au moment où je compose la mélodie, quelque chose qui vient du coup du songwriting, être accompagné d'un instrument simple comme une guitare, un piano et que tout vienne un petit peu d'un seul coup dans un jet émotif comme ça. Et je pense qu'elle, elle était curieuse de ce côté machine, bidouillage, créer de la matière électronique ou en tout cas synthétique, qui n'est pas juste justement un instrument, une voix. Et je pense qu'on s'est un petit peu tendu la main mutuellement parce qu'on voulait partager notre univers à l'autre, quoi.
Et elle fait partie du dernier disque de Flavien Berger.
Oui, on a fait une troisième magie ensemble, Magie Vermeille.
Et on va écouter non pas cette chanson-là, mais une chanson du nouveau disque de Pomme. Le titre, c'est June Perséide.
Pendant l'été, où je t'ai rencontré par magie, les nuits sacrées, où je t'ai raconté toute ma vie, c'est là qu'on s'est aimé pour la première fois. Tous les secrets devenaient des amis à partager. Toi, tu savais deviner les envies que je tuais.
Voilà Pomme qui vient de sortir son fameux disque Saison et on va trouver un titre avec Flavien Berger.
Voilà l'autre magie mauve, les magies de l'automne. Donc son disque, c'est les quatre saisons séparées en trois mois chacune. Et donc chaque saison a un long morceau, dont une partie plus chantée avec des paroles. Et quand on avait déjà fait Magie Bleue dans la réédition de son deuxième album Les Failles, on s'est dit bah alors continuons l'arc-en-ciel d'expérimentation de sortilèges ensemble. Et donc, on en parlait tout à l'heure, dans Contrebande 02, mon dernier disque, il y a un morceau qui clôt, qui est Magie Vermeille, qui est voilà, le côté un peu rouge du soleil couchant dans la rivière.
Mais vous appartenez à une génération qui aime bien faire des prolongations dans vos œuvres qui se suivent. Par exemple, vous faites un disque et après, vous faites un contre-disque. Oui, alors... c'est le cas de celui que vous venez de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire un contre-disque ?
Alors ça, faut pas faire l'amalgame parce que justement moi je fais pas de réédition. La réédition c'est quelque chose qui se pratique dans l'industrie que je respecte, hein, mais qui est que on sort un album puis quelques temps après on ressort l'album avec plus de morceaux. Notamment pour booster les ventes, notamment pour booster le nombre de lectures sur les plateformes. Moi, c'est très différent. Je veux pas m'inscrire en faux de ça, mais c'est juste que la démarche vient de quelque chose d'inverse, c'est-à-dire que les contre-disques, à la base, c'est des disques gratuits que je sors un an après l'album qui m'a servi à faire une tournée, que j'ai promu en interview et tout ça. Un disque gratuit disponible sur des plateformes. Là, celui-là, par exemple, Contrebande 02, il est disponible gratuitement en écoute sur internet, sur une plateforme sur laquelle on peut dessiner en écoutant le disque qui s'appelle contrebande02.pizza. Et c'était quelque chose que j'avais déjà fait à l'époque avec le contrebande 01. Et pourquoi un contre-disque ? Parce que j'aime bien la contrainte d'avoir très très peu de temps pour sortir un disque parce que ça me force à faire des choix, puisque j'ai l'impression que la musique et l'art en règle générale, ce n'est que ça, c'est faire des choix par rapport au possible afin d'aboutir à un objet final. Et quels choix on fait, et les choix qu'on fait disent de nous l'artiste qu'on est, quoi. Et donc ces disques qui sont faits dans un temps court, alors je les compose pas dans un temps court, c'est souvent fait de choses qui n'avaient pas la place dans le disque principal, on va dire. Non pas parce que c'était moins bien, mais parce que une histoire, un disque peut pas raconter 1000 histoires. Et en l'occurrence, Contrebande 02 racontait l'été, racontait la rivière, racontait aussi un petit peu ce sous-texte un petit peu qu'est le rassemblement, la manifestation, le fait de se retrouver ensemble autour d'une quête ou d'une cause commune. Et ça avait pas la place dans 100 ans, le disque précédent. Et du coup, voilà, je lui ai donné la... l'espace d'un disque.
On pourrait se quitter avec du Flavien Berger. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, avec plaisir.
Il y a une chanson qui parle des betteraves.
Ah bah oui, ouais, bêta, ouais.
Comment ça se fait que les betteraves sont venues dans votre tête ?
Parce que j'adore les betteraves. la chanson parle d'elle-même. Hein,
c'est vrai. Voilà. On écoute Bêta dans la balade de Flavien Berger sur France Inter.
Choja, la Détroit.
betteraves, j'aime les fumer et les dégommer, des rubis rosés, des cœurs enflammés. Vous êtes poète, monsieur Berger.
Enfin, on parle, mais vous avez déjà pris du plaisir à couper une betterave crue et à regarder les motifs de ses tranches.
Oui, mais ça ne m'a pas inspiré de texte ni de chanson.
Ou la choja.
C'est ça votre chance?
Bah, en tout cas, c'est, j'aimerais bien que les gens aiment plus la betterave car elle est boudée en France.
Ne boudons pas la betterave, ce sera votre dernier cri du cœur. Flavien, votre disque s'intitule Contrebande 02, le disque de l'été. Vous êtes en tournée, vous l'avez dit, vous serez entre autres le 13 juin au lieu unique à Nantes. Il faut le voir aussi, pas seulement l'écouter, Flavien Berger, parce que il est tout seul, c'est quelqu'un qui se débrouille tout seul avec ses grosses machines et ses cheveux longs. Et il lance comme ça des nappes, des sons, des mélodies. Des samples, et puis il descend parfois dans le public, oui, avec son micro, il chante avec eux, puis quelquefois c'est le public qui chante et vous regardez ce qui est en train de se passer, vous êtes acteur, oui, de votre propre scène d'une certaine manière.
Oui, étant donné que je suis seul, j'ai pas de musicien, musicienne, donc il faut trouver des stratagèmes parfois forains. J'ai aussi une scénographie lumineuse faite par Juliette Gelly qui m'accompagne en tournée et que je suis très content de montrer aux gens car moi je ne la vois pas, car je suis devant.
Bonne route.
Merci.
Anne Beinfeld a réalisé cette émission, Fanny Leroy m'a aidé à la préparer, Valentine Chedebois a programmé la musique et aujourd'hui à la technique, c'était Vincent Godard. Retrouvez-moi demain, s'il vous plaît, dans le Grand Atelier et samedi à 17h dans la balade de Gérard Manset. Vous pouvez réécouter la balade de Flavien Berger sur franceinter.fr.